Suivez le guide avec Elisabeth Boivin, guide interprète nationale du tourisme. Laissez-vous porter par sa fougue et sa passion à travers les chemins du patrimoine. Elisabeth vous emmènera, sans avoir l'air d'y toucher, dans la réalité et dans le rêve. Et tout ceci est possible grâce à notre ami fidèle Laurent à la technique. Elisabeth, bonjour. Nous avons fait précédemment des parcours jardins et plantes. S'il y a un endroit où l'on peut trouver bon nombre de produits du terroir, c'est bien sous les halles, havre de senteurs et de découvertes. Les halles que nous aimons par leur présence tout d'abord, ensuite par leur architecture et l'histoire qu'elles sous-tendent. Chaque halle porte son empreinte et nous plonge dans un bien-être intangible. Qui nous parle ainsi ? Des femmes et des hommes du passé qui ont légué leur savoir. Ne soyons pas imbus de notre temps. L'histoire nous rejoint toujours. Soyons attentifs. Elisabeth, les halles dans les villes sont comme les fleuves qui les traversent. Soyons attentifs. Un esprit plein et particulier nous parle. Mais je ne sais jamais comment dire. Doit-on dire les halles ou la halle ?
Oui, bonjour Titane. Eh bien, on doit dire, je me suis basée sur le dictionnaire, la halle est un nom féminin singulier, c'est un lieu public fermé et couvert où se tient un marché, un commerce en gros de marchandises. Donc, nous pourrions dire la halle Bocuse à Lyon, par exemple. Les halles, au pluriel, est le bâtiment endroit réservé au marché principal des produits alimentaires d'une ville. Donc les halles ouvertes c'est elles qui méritent le pluriel. La halle est un endroit fermé.
D'accord, je comprends mieux mes erreurs, mes doutes entre la et les. Donc je devrais dire je vais sous les halles. Et la halle de Crémieux, la halle de la Côte-Saint-André, par exemple.
Voilà, mais même sous les halles, c'est vrai, c'est ce qu'on dit. En fait, on devrait dire, je vais dans la halle.
Dans la halle,
d'accord. La halle, puisque c'est fermé et couvert. Mm-hmm. Alors que, effectivement, les halles, c'est d'abord un toit, c'est un abri sur un lieu. Donc, ça reste ouvert, les gens circulent, sortent, enfin, ne sortent pas d'ailleurs, ils traversent une halle, mais ils ne rentrent pas dedans, ils circulent dessous.
C'est comme je vais dans la halle Grenette.
Voilà, alors aujourd'hui, où la halle de Bourgoin a été fermée, on peut effectivement, et le nom qu'elle a est tout à fait propre, la halle Grenette. Alors qu'autrefois, lorsque la halle était ouverte, enfin, les halles étaient ouvertes, on disait on va sous les halles. Voilà.
Et quelle est l'origine des halles ? Leur fonction est-elle uniquement commerciale ?
Non, la fonction des halles a été plurielle, si je puis dire. Alors, durant la période antique en Grèce, le marché se trouvait autour de l'agora, qui était le point central de la cité, grande place principale délimitée par divers bâtiments, qu'ils soient culturels, sportifs, administratifs ou commerciaux. À l'époque romaine, on retrouve un peu la même la même fonction. Les halles se situaient autour du forum. Le forum est un peu la version romaine de l'agora grecque. À partir de l'époque médiévale, alors, et suivant une importante démographie au XIIIe siècle, effectivement, les foires ambulantes et les marchés sédentaires sont apparus. On avait des marchés sédentaires, donc assez fréquents, voire tous les jours à certains points de la ville, et des foires ambulantes qui pouvaient durer d'un jour à plusieurs jours, on le verra. Et tout cela régulait en quelque sorte l'activité commerciale des cités. Et on a alors créé au Moyen-Âge de vastes halles rectangulaires selon un plan basilical. Donc, c'est-à-dire, grosso modo, c'était un espace rythmé, fait de différentes travées rythmées par des piliers, des colonnes, qui soutenaient bien sûr le toit. Elles sont ouvertes sur l'extérieur et assurent plusieurs fonctions. Petite parenthèse, au Second Empire, Napoléon III, qui découvre le Crystal Palace à Londres, aurait dit « Je veux la même chose à Paris ». C'est ainsi qu'à partir du milieu du XIXe siècle, des architectes et des ingénieurs ont construit avec des matériaux « entre guillemets révolutionnaires » pour l'époque, beaucoup de halles. On connaît bien les halles Baltard d'ailleurs.
Et peut-on assembler à cette origine les galeries marchandes? Est-ce qu'elles découlent des halles?
Alors, les galeries marchandes, c'est un peu différent. C'est bien au XIXe siècle aussi, mais elles ont été créées pour que les dames de la noblesse, de la haute bourgeoisie, puissent faire leurs emplettes sans se salir. C'est-à-dire, ces passages couverts avec des boutiques à l'intérieur permettaient effectivement de passer d'un lieu à l'autre, d'une part sans se mouiller les jours de pluie, ou pour éviter aussi les rues parisiennes qui n'étaient pas très propres à l'époque et qui salissaient tout le bas des robes de ces dames. Donc, ça a été la naissance, effectivement, des galeries marchandes qui, en plus, faisaient communiquer certains parcs avec certaines zones beaucoup plus commerçantes. Et aujourd'hui, ces passages couverts, ces galeries marchandes font vraiment le charme de Paris. C'est vrai, il y a des livres qui y sont consacrés. Certaines ont des architectures très particulières et ça vaut vraiment le coup de visiter Paris en utilisant au moins deux ou trois de ces passages couverts. Aucun ne ressemble à un autre. C'est vraiment très intéressant.
Et c'est déjà à l'époque, comme ils disent, des matériaux révolutionnaires, c'est-à-dire du verre,
le métal. Mais on a quand même, alors oui, on a des passages couverts qui ont justement une couverture avec des verrières, avec des montants métalliques par exemple. Et ça donne une lumière zénitale qui est tout à fait intéressante dans le passage couvert. Et ces halles, donc pour revenir plus précisément aux halles, elles avaient différentes fonctions. Nous, on les voit souvent comme, bien sûr, avec une fonction commerciale ou commerçante, mais c'est vrai que c'était leur première fonction. Et c'était très important puisque chaque corporation avait son banc qu'elle louait. Et on pouvait avoir comme ça des corporations de vendeurs de tissus, de potiers, d'escoffiers, ceux qui travaillaient le cuir, de bouchers. D'ailleurs, à propos des bouchers, quand on visite les halles de Crémieux, de la côte Saint-André, pardon, qui sont dans une pente, eh bien, la travée des bouchers était la plus en bas des halles, tout ça parce que du sang s'écoulait de leur étal, et donc on préférait qu'il aille directement dans la rue plutôt que de redescendre du haut de la halle. Donc, cette fonction commerçante est primordiale, mais aussi une fonction de justice, puisque le pilori était installé au croisement du Cardot, de la rue Cardot, nord-sud et du Decumanus est-ouest qui délimitait les cités romaines. Et le pilori était là et on mettait en évidence un homme ou une femme qui avait commis un petit délit, battu ses parents ou fait... peu importe, et il était montré à la vindicte populaire qui pouvait... oui, c'était un autre temps.
C'est dur.
Donc, il y avait cet aspect de justice. Il y avait une fonction administrative aussi, parce que certains greffiers, certaines personnes qui maîtrisaient l'écriture des actes notariés s'installaient sous les halles et rendaient ce service aux gens. On peut imaginer aussi qu'au 14 juillet, beaucoup de gens venaient un peu danser sous les halles. Et bien sûr, une fonction citoyenne, puisque on n'avait pas comme aujourd'hui des salles pour se réunir à droite et à gauche. Et souvent, on se réunissait sous des endroits couverts comme les halles.
Et c'est entre autres, je pense à ça en vous écoutant, aux écrivains publics. On en a connu de temps en temps. Moi, je me rappelle avoir vu des écrivains publics dans certaines postes, par exemple, oui. Donc à présent. Mais j'imagine qu'à l'époque, tout le monde peut-être pouvait lire, mais n'écrivait pas.
Oui,
donc,
bien sûr. Déjà, même la lecture, que c'était... si on remonte vraiment au Moyen-Âge, c'était plutôt les religieux qui avaient la lecture. Mmh. Bon, après, évidemment, tout ça a évolué. Mais effectivement, des écrivains publics étaient toujours utiles. On avait aussi, alors, tout à fait autre chose, les arracheurs de dents
qui venaient sous les halles
et qui arrachaient les dents. Voilà. Donc, c'était une ambiance, c'était vraiment le cœur de ville et c'était une ambiance. Et moi, je trouve très intéressant qu'aujourd'hui, on cherche à tout prix à conserver ceci parce que c'est c'est le lieu de la vie des gens, de la vie de la cité. C'est très important, surtout à une époque où aujourd'hui la communication virtuelle prend de plus en plus d'importance. Là, voilà, on échange, on parle, on troque. C'est un lieu très, très vivant et essentiel.
Qui continue en général quand il y a les marchés, les marchés sous les halles, en général, les personnes aiment y aller. C'est reposant en même temps.
Oui, oui,
ça
tout
donne
à fait. Et moi qui travaille dans le tourisme, je peux dire que c'est un élément phare dans une ville pour l'attraction touristique. Si on pense aux halles de Châtillon-sur-Chalaronne dans la Dombe, si on pense aux halles de Saint-Antoine-l'Abbaye, enfin, elles ont un charme fou, ces halles. Soit la manière dont elles ont été construites, soit avec quels matériaux, à quel endroit. Non, c'est vraiment un attrait touristique principal pour une ville.
Et il faut être assez exemplaire quand on voit les constructeurs qui rénovent des halles, parce que ce n'est pas du tout évident. Moi, j'ai vu refaire en partie les halles de Crémieux, et on peut dire que c'est fait à l'identique, donc il y a tout un savoir-faire qui est resté.
Ah ben, les halles de
Crémieux. Ou qui est revenu.
Oui, il y en a. Peut-être on en parlera à la fin, mais c'est vrai qu'elles sont particulièrement intéressantes.
sur Couleur FM 97.1 avec Elisabeth. Suivez le guide. Nous sommes sous les halles, dans la halle, et nous venons d'écouter de l'album Rainbow de Max Nagel. Nous venons d'entendre Ballroom. Alors, Elisabeth, j'ai bien compris que les halles étaient un lieu de réunion, de retrouvailles, de discussion qui maintenant est oublié par beaucoup qui surfent sur Internet pour combler l'isolement. Mais pouvons-nous parler plus précisément des halles de Bourgoin-Jallieu ? Elles tiennent une place importante au cœur historique de cette ville où nous sommes en ce moment.
Oui, eh bien, les halles de Bourgoin-Jallieu, les premières halles furent installées au Moyen-Âge, justement sur le forum romain, c'est-à-dire à l'intersection, comme je l'ai dit, du Cordeau, l'axe nord-sud, et du Decumanus, l'axe est-ouest, qui définissait le centre de la cité. Et elles étaient bien sûr le lieu de commerce. Elles s'étendaient le long de la rue Marchande jusqu'à la place de la Porcherie, c'est celle qui est aujourd'hui, qui s'appelle aujourd'hui la place du 23 août à Bourgoin. Et les halles furent réservées aux grains. Et donc c'est intéressant parce que justement dans cette histoire qui se prolonge, eh bien, lors de la réhabilitation, on a donc appelé la halle qui progressivement s'est fermée, eh bien, on l'a appelée la halle Grenette. Et ça vient bien sûr du fait qu'on y faisait un commerce de grains principalement. L'aliment ou la culture phare du Moyen-Âge et des époques suivantes, c'était le blé. Et les grains de blé, le prix du blé, c'était un objet de discussion sous les halles, bien sûr, important. Donc, on a gardé ce nom de halle Grenette, et ça, c'est bien. Et au XVIIe siècle, les halles primitives étaient quand même en très mauvais état, et elles ont été reconstruites sur des piliers de chêne. Et elles dureront 2 siècles. Donc elles se sont maintenues 2 siècles. Et c'est la municipalité Buisson, au XIXe siècle, en 1847 exactement, qui décida de les refaire. Et à ce moment, on a aussi décidé, dans le prolongement de cette réfection, on a décidé de créer un étage aux halles. Donc, il s'est passé les allées et venues sous les halles qui restaient ouvertes dans un premier temps. Au fond, il y avait un escalier monumental qui conduisait à une salle au premier étage.
C'est assez rare comme système.
Oui, c'était assez novateur peut-être à cette époque-là d'installer une salle sous le toit en fait. Et cette salle avait pour usage, c'était une salle de réunion. Il s'y est tenu certainement des réunions du conseil municipal et parfois des débats politiques houleux. Et c'était une salle aussi où les jeunes du collège donnaient des pièces de théâtre. C'était une salle où les amis des arts venaient exposer leurs peintures. Il y a certainement eu des concerts. Donc voilà, on a mis une autre fonction très festive sur cette halle.
Festive et culturelle.
Et culturelle en même temps, oui, tout
déjà,
à fait.
Oui, oui.
Et dans les années 60, ne se tenait sous les halles plus que le marché aux poissons. Le gros du marché se tenait sur la place de l'église. Donc il y a eu cette distinction qui s'est faite. Ça avait été organisé de cette manière.
Probablement que l'espace était devenu trop restreint.
Voilà, pour l'ensemble du marché, trop restreint. Et pour le poisson, il faisait quand même... j'ai le souvenir personnellement d'une halle assez fraîche, voire même très froide. Et ça convenait peut-être plus aux poissons qu'aux légumes. Voilà. Et... cette halle, à un certain moment, a fait l'objet d'un projet de destruction. Et là aussi, c'est intéressant parce que ce sont les habitants de Bourgoin qui ont signé une pétition pour conserver cette architecture, ce bâtiment. Et c'est important, c'est là où on voit vraiment la symbolique d'un lieu comme celui-ci qui a justement participé à une vie citoyenne dans tous ses aspects. Et donc, ces halles se sont rénovées et avec beaucoup d'intelligence quant à l'architecture, puisqu'on a mis énormément de surfaces vitrées qui ont en finale allégé complètement la structure, qui restait une structure assez importante quand même, dans un endroit où les rues étaient étroites et les maisons qui bordaient la halle étaient très proches. Donc ces grandes surfaces vitrées, et on a maintenu les deux niveaux en fait dans cette halle qui s'est fermée et qui du nom de les halles de Bourgoin-Jallieu est devenue la halle Grenette et qui aujourd'hui encore retrouve toujours cette fonction puisqu'il y a des conseils municipaux qui s'y tiennent, il y a des marchés de Noël qui s'y font, il y a des concerts qui s'y donnent et il y a des expositions. Donc on est de nouveau sur une polyvalence de rôle, mais au cœur même de la cité. Et là, le cœur signifie bien le cœur de la cité. Voilà. Alors, je voulais... Ah, pardon.
Oui, non. J'allais dire que de devenir la halle Grenette, est importante maintenant parce qu'on peut y déposer, y laisser certaines choses. Par exemple, s'il y a une exposition de plusieurs jours, on peut fermer, on n'est pas obligé de tout ressortir.
C'est une évolution qui correspondait aussi à une époque. Mmh. Et donc, on peut évoquer d'autres halles. Je l'ai fait un petit peu déjà tout à l'heure en parlant de celle de la Côte-Saint-André. De la même façon, très commerçante, elle est complètement ouverte et elle ne se fermait qu'à une seule occasion, c'est-à-dire lors du festival Berlioz, puisque... On peut dire qu'ils empaquetaient la halle et la fermaient complètement et s'y sont donnés de très très beaux concerts qui régalaient tout le monde. Alors c'était une évolution aussi là de la halle qui était bienvenue et bien dans son temps, bien ancrée dans son temps. Et c'est la halle de la Côte-Saint-André a 5 travées et chaque corporation avait sa travée. Ça, c'est important. Et les halles ont aussi évolué au fil du temps. Et ce qui est important aussi de savoir, c'est que les maisons, on disait « sises sur halles », donc « situées sur halles », étaient des maisons qui avaient une importance, qui avaient une certaine notoriété. Et par contre, dans les derniers étages, voire sous les combles, il y avait ce qu'on appelait les chambres de rapport, c'est-à-dire que les propriétaires louaient le temps d'une foire Parce que certaines foires, on le verra, pourront s'étendre jusqu'à 10-15 jours. Donc, c'était des périodes très importantes qui amenaient beaucoup de monde sur la cité. Et les gens qui tenaient leurs étals, eh bien, il fallait bien qu'ils se logent. Donc, il y avait cette particularité. Et puis, je dirais les halles de Crémieux, bien sûr, avec deux caractéristiques. Le toit, qui est fait en lauze du plateau de Crémieux. Or, la lauze, c'est 400 kilos au mètre carré. Donc, le poids du toit de Crémieux, c'est 40 tonnes.
C'est énorme. Hein,
oui. Quelle charpente pour soutenir ça? Une charpente de chêne. Voilà. Et deuxième caractéristique, ce sont les mesures à grains en pierre qui sont restées sous la halle de Crémieux, qui sont très caractéristiques. Après, on a des plus petites halles, les halles de Virieux-sur-Bourbe, qui sont très jolies, au cœur du village aussi. Les halles de Saint-Antoine-l'Abbaye, aussi, très caractéristiques. Et puis, les halles de Saint-Étienne de Saint-Jouard, qui, elles, sont sur piliers métalliques. Et les halles de la Tour du Pin, où se passe encore le marché, les halles de Champier. Enfin, on peut comme ça, au fil de la route, de ces déplacements, on peut remarquer ces halles qui, certaines, bordent des axes de circulation, d'autres sont un peu plus enclavées dans la ville, ou dans le village, mais elles ont un charme fou, vraiment.
Il faut qu'on les préserve, il faut qu'on continue à vivre avec ces halles et ne pas les laisser tomber en désuétude.
Non, je crois qu'aujourd'hui, les responsables politiques ont compris l'importance de certains, de certains monuments ou de certaines architectures qui sont porteuses de symboles et de vie sociale qui est tellement précieuse.
Merci beaucoup, Elisabeth, pour ce voyage dans la halle et sous les halles. Merci, Laurent. Et puis, à très bientôt. Merci.